Bonjour à tous. Cet été, j'ai passé des vacances dans mon pays natal et je suis allé passer quelques jours dans une partie du pays que je n'avais jamais vue auparavant. Alors il faut dire que j'ai vu très peu, en fait, finalement, d'endroits là où je suis né. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis né à Madagascar. J'ai passé les 18 premières années de ma vie et ça fait exactement 18 ans aussi que je suis en France. Vous aurez deviné mon âge. Alors, dans cette partie-là, on était dans un gîte qui était tenu par un Français. Tout simple, hein, je suis allé sur Airbnb, j'ai cherché un endroit et je suis tombé sur cet endroit-là qui avait l'air magnifique et qui était magnifique. Alors, ce monsieur-là, c'est un monsieur de 76 ans qui habite là-bas. Et qui, à la base, était juste venu passer un temps court. Donc, il était à la base venu là-bas pour un temps assez court, assez limité. Et au final, ça fait plus de 10 ans qu'il y habite. Donc, il avait trouvé son épouse, il a investi et il a refait sa vie là-bas, après avoir habité dans plusieurs pays, notamment la Finlande, la France, les Antilles aussi. Donc, nous voilà, on débarque dans sa villa, sur une petite île, au bord de la mangrove. Magnifique. Alors, dès le départ, on est plongé dans le bain. Une heure après notre arrivée, il nous propose de nous emmener à la plage, qui est apparemment la plus belle du pays. Alors, j'ai pas vu tout le pays, mais la plage est magnifique, effectivement. Et il voulait nous faire un déjeuner dans une petite gargote au bord de la plage. Donc c'est une petite paillote dans laquelle je ne serais jamais allé, si ce n'était lui qui me disait « Non, non, t'inquiète pas, tu vas pas avoir mal au ventre, etc. » Parce que de moi-même, j'y serais pas allé. Effectivement, c'était très bon et aucun souci après. Le lendemain, on est parti sur un autre très bel endroit où je vais voir pour la première fois de ma vie, un bout de paradis. Je vous décris la scène. C'est dommage, j'ai pas pu avoir des photos. Ce sont deux petites îles, toutes petites, qui sont séparées par un banc de sable et le sable blanc, fin, très beau. Et c'est baigné dans une mer turquoise. Un paysage de carte postale. Je n'avais jamais vu ça avant. Ensuite, les jours suivants, notre hôte français nous amène dans des excursions et des visites dans des endroits très très beaux. Il ponctue ses visites par des anecdotes de vie et des informations sur la vie locale dont on ignorait presque tout. Il va jusqu'à nous apprendre comment saluer dans le dialecte local, comment se comporter avec les locaux, comment négocier les prix. Il nous donnait les prix, les vrais prix, pour ne pas nous faire arnaquer. Etc., etc. Bref, il nous fait découvrir le pays, ou du moins cette partie-là du pays. Alors, ce que j'ai trouvé un peu ironique et comique dans l'histoire, et c'est la raison pour laquelle je vous la dis ce matin, au-delà de vous faire envie d'y aller, bien sûr, c'est la situation même. Un Français qui habite à Madagascar fait découvrir ce pays à un Malgache qui habite en France. Qui est le plus malgache d'entre nous deux et qui est le plus français? Ce monsieur habite à Madagascar depuis plus de 10 ans et moi j'habite en France depuis 18 ans. Alors voilà, c'était la petite histoire. J'aimerais que vous la gardiez dans un coin de votre tête. J'y reviendrai à la toute fin. Alors sans transition, nous allons continuer notre série sur l'épître aux Éphésiens. Et nous arrivons aujourd'hui au verset 11 à 22 du chapitre 2. Alors durant les précédents épisodes, nous avions vu les bénédictions de Dieu, nous avons vu sa puissance qui se manifeste notamment dans le salut qu'il nous offre à travers Jésus-Christ. Et la dernière fois, dans les premiers versets du chapitre 2, Paul nous décrit ce que nous étions, ce que Dieu a fait pour nous, et enfin ce que nous sommes devenus par la suite. Alors dans cette même logique, Paul va poursuivre dans notre passage cette idée d'avant et après, mais cette fois-ci sur la perspective de l'Église, l'Église avec un grand E, la communauté chrétienne que Christ a rachetée. Il va nous rappeler également ce que nous, païens, c'est-à-dire les non-juifs, étions avant, et c'est ce que nous sommes maintenant, avec comme agent de transformation au milieu, la paix. Alors je vous propose de lire ces versets, donc Éphésiens chapitre 2, du verset 11 au verset 22, et je lirai dans la version second. Souvenez-vous donc de ceci, vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par des mains humaines, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi de ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer, comme une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Alors comme dans de nombreux textes bibliques, on pourrait tout à fait s'arrêter là, tant il y a de vérités immédiatement compréhensibles dans le passage. Je vous propose quelques axes de réflexion, voir comment étaient considérés les païens avant la venue du Christ. Que sont-ils maintenant? Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, les païens avant. Alors le terme païen, désigne de manière générale ceux qui ne sont pas juifs. Alors ce ne sont pas forcément des athées, hein, c'est-à-dire des personnes qui ne croient en aucun dieu ou force surnaturelle, mais ce sont plutôt des personnes qui croient en des divinités. Alors ce sont des divinités souvent matérialisées par des statues, par des images, ou tout simplement avec des éléments, le feu, la terre, l'eau, etc. Le feu, j'ai dit d'ailleurs. Oui. Pardon, je me perds des fois. Lorsque Dieu a conclu une alliance avec le peuple qu'il s'est créé, c'est-à-dire le peuple juif, il l'a mis à part. Il lui a donné des préceptes, il lui a donné des commandements, il lui a donné toute une sorte de rituel, et il lui a donné un but. Alors le but de Dieu n'était pas d'exclure les autres personnes, bien au contraire. Il voulait, en fait, en mettant son peuple à part, montrer quelle était la voie à suivre. Il voulait faire du peuple juif un témoignage pour les nations. Il voulait faire du peuple juif une lumière au milieu des ténèbres. Par ses commandements, qui régissent un mode de vie qui honore Dieu, Dieu lui-même voulait montrer aux autres peuples que cette voie-là était celle à suivre, donc la meilleure voie possible. Mais à côté de ça, au lieu de, d'être un témoignage pour les gens du dehors, au lieu de se servir des commandements de Dieu comme moyen de témoignage, le peuple juif s'est enflé d'orgueil au point de mépriser les païens. Ils voyaient leur situation comme étant un grand privilège qu'eux seuls pouvaient avoir. Et ceux qui voulaient être sauvés devaient passer par la conversion au judaïsme, à la circoncision physique, pour les hommes, pour intégrer le peuple juif. En quelque sorte, c'est devenu un peu un club très très sélectif et exclusif. C'est ce que Paul nous dit au verset 11. « Vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étaient traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis. » En fait, les païens, donc les non-juifs, étaient considérés comme un peu un sous-peuple, un peuple un peu ignare, qui n'avait pas accès au vrai Dieu. Il y avait une vraie animosité des juifs envers les païens, de sorte que cette animosité est aussi devenue réciproque. Les païens haïssaient aussi les juifs. Paul poursuivra dans le verset 12 en donnant les détails de cette situation des païens. « Vous qui étiez en ce temps sans Christ, en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Alors cette animosité entre les juifs et les non-juifs, malheureusement, perdure encore aujourd'hui. Et malheureusement, nous vivons encore dans un temps où la guerre est de retour dans plusieurs endroits, notamment au Proche-Orient. Et en fait, la bénédiction de Dieu, matérialisée par l'alliance qu'il a conclue avec son peuple, le peuple juif, est devenue, petit à petit, par le péché, un objet d'orgueil et de mépris envers les autres. Au lieu d'attirer les gens à Dieu, ils les ont exclus. Au commandement de Dieu, le peuple juif a également rajouté des couches de rites légalistes, renforçant encore et encore le caractère exclusif de leur foi. Mais, heureusement qu'il y a un mais, et heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là. Mais maintenant, vous, qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, nous dit Paul au verset 13. Alors comment est-ce que c'est possible? C'est possible, nous dit Paul, en Jésus-Christ, par le sang de Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Voilà la situation des païens avant. Nous avons maintenant, en quelque sorte, le coup de théâtre qui va tout chambouler et qui va renverser la situation. Je relis les versets 14 à 18. Car c'est lui, Christ, qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. La paix est venue au milieu. Une petite illustration, les parents de fratrie doivent bien connaître cette situation lorsque les enfants se disputent et que vous venez, tel un roi ou une reine, prêt ou prête à faire régner la loi et l'ordre. Alors il peut y avoir deux situations. Soit votre venue calme tout le monde et apaise la tension, soit votre venue déclenche au contraire une amplification des disputes, parce que chacun veut avoir raison et veut vous rallier à sa cause. Et ça devient un vacarme pas possible. Et tout ça, bien sûr, c'est sans compter sur une troisième situation qui va déclencher peut-être une autre dispute, cette fois-ci entre les époux, sur la manière de régler cette situation avec des phrases du genre « je t'avais dit d'être plus ferme avec eux » ou « tu es trop laxiste » ou « soit tu agis, soit je sévis ». Alors tout ça n'est absolument pas tiré de mon propre vécu parce que j'ai pas d'enfant, mais j'ai observé mon entourage et j'ai beaucoup de neveux et nièces. Et vu la grande famille que j'ai vu ces situations-là, notamment chez ma sœur aînée qui a 5 garçons. Vous imaginez un peu le vacarme qu'il peut y avoir. Alors, dans la situation de notre texte, nous avons un double problème, quelque part. D'une part, on a une forte animosité, une inimitié, selon les versions, entre le peuple juif et le peuple non-juif, donc entre les juifs et les païens. Ils ne s'aiment pas. Et d'autre part, on a une séparation de Dieu et des hommes. Donc, si réconciliation il doit y avoir, elle devra être double. D'abord entre Dieu et les hommes, une réconciliation qu'on peut qualifier de verticale, et ensuite entre les hommes, une réconciliation horizontale. Et cette double réconciliation a été faite par Jésus, par sa mort et par sa résurrection. Alors, si vous avez plus de 2 enfants à la maison qui se disputent, bon courage pour les apaiser. Mais là, Jésus, non seulement a enlevé l'animosité entre les peuples, mais il a apaisé la colère de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça? Parce qu'il est lui-même la paix. Verset 14, car c'est lui, Christ, qui est notre paix. Jésus est notre paix. Dieu est saint et il a en horreur le péché. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, pour effacer les péchés du peuple juif, il y avait un rite sacrificiel annuel qui devait être fait par le grand prêtre. Christ s'est sacrifié, lui, une fois pour toutes, pour effacer nos péchés. À cause de notre désobéissance à Dieu, à cause de notre péché, nous méritions la mort, mais Christ est mort à notre place. Il est notre paix, premièrement. Deuxièmement, il fait la paix entre les hommes. Pourquoi? Eh bien parce que ceux qui croient en lui ne forment qu'un seul et même peuple. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens. Il y a l'Église, avec un grand E, constituée de chrétiens. Car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est dans Galates 3, 26, 28, c'est pas affiché, mais je vous le lis. Il n'y a pas de distinction, en effet, entre juifs et grecs. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 10, verset 12. Puisque tous sont un en Jésus-Christ, ça enlève toute distinction d'origine, de race, si on peut parler de race, de connaissance, d'âge, de niveau social, de niveau d'éducation, etc., etc., etc. Pour l'appliquer à notre Église, je pourrais dire qu'il n'y a plus ni Brésilien, ni Suisse, ni Anglais, ni Écossais, ni Gallois, ni Irlandais, ni Gabonais, ni Belges, ni Ardéchois, ni Dromois, ni Malgaches. Il n'y a plus que des frères et sœurs en Christ. Dieu fait la paix entre les hommes. Alors je me permets de vous donner une petite illustration que j'ai vue dans un livre et que j'ai trouvée assez intéressante. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas, elle est vraisemblable. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Donc les soldats américains sur le sol français étaient en prise avec les soldats nazis dans une petite ferme française. Et cette ferme était occupée par des paysans. Lorsque les soldats nazis s'y sont réfugiés, donc les gens sont restés sur place, hein, ils n'ont pas fui. Et lors du débarquement des Américains, les affrontements ont éclaté lorsque les Américains sont arrivés à cet endroit-là. Donc il y avait des tirs nourris entre les soldats nazis et Américains. Et parmi les paysans qui étaient cachés dans la grange pendant ce temps-là, il y avait une petite fille de 3 ans. Une petite fille de 3 ans qui a pris peur, et c'est normal, qui n'aurait pas peur dans cette situation. Et en fait, elle s'est enfuie en pleurant. En s'enfuyant, elle est sortie de la grange et elle a couru en plein milieu du champ de bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un cessez-le-feu, le temps que la petite fille traverse. Elle a amené, en fait, sans réellement le vouloir, et juste le temps d'un instant, elle a amené la paix entre les hommes. Apparemment, la fille était saine et sauve juste après. Jésus est notre paix. Jésus est notre paix car il nous permet un accès à Dieu. Il fait la paix entre nous. Et enfin, il est aussi venu annoncer la paix. Il est venu annoncer cette bonne nouvelle de la réconciliation. Au verset 19, Paul nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. » Ça y est, la voilà la bonne nouvelle. Jésus a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu de sorte que nous sommes membres de la maison de Dieu. Et il a aussi abattu le mur de séparation entre nous, de sorte que nous sommes tous concitoyens du royaume des cieux, nous qui avons placé notre confiance en Christ. Il n'y a plus maintenant qu'un seul édifice, un seul édifice composé de chrétiens. Au verset 20, « Vous qui avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même, en étant la pierre de l'angle, c'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. » Alors il y a trois choses indiquées ici. Il y a la pierre de l'angle, tout d'abord, ou pierre angulaire, dans certaines versions, c'est la même chose, qui est en fait la première pierre posée. Et donc c'est elle qui soutiendra tout l'édifice et qui orientera les autres pierres dans les angles où ils doivent aller. Ensuite, on a les fondations, symbolisées par les apôtres et les prophètes, qui reposent sur Christ. Christ est le fondement. Ensuite, on a la construction qui est l'Église, avec un grand E, composé de nous tous qui avons placé notre confiance en Jésus. Alors cette construction, elle s'étendra toujours, hein, tant que Dieu le permettra. Il s'étend non seulement en nombre, avec le nombre de personnes qui s'ajoutent, le rajout de ceux qui viennent à Jésus, mais il s'étend aussi en maturité. C'est en quelque sorte un édifice vivant qui, avec le temps, s'affermit d'une part et grandit d'autre part. Mais une chose est sûre, la pierre de l'angle et le fondement ne bougeront pas. Alors voilà, pour conclure, j'aimerais nous donner quelques pistes de réflexion, d'application, après cela. Premièrement, souvenons-nous de ce que nous étions avant notre conversion. Nous étions sans Christ, nous étions sans espérance, nous étions sans Dieu dans le monde. Souvenons-nous aussi du prix que la paix avec Dieu a coûté, à savoir le sang du Christ, sa mort. Soyons reconnaissants que Dieu nous ait appelés à lui pour jouir de cette paix. Souvenons-nous que nous faisons partie d'un édifice dont Christ est le fondement et la pierre de l'angle. Nous pouvons donc compter sur lui dans notre marche et nous pouvons aussi compter les uns sur les autres. une autre chose, ne méprisons pas les gens du dehors. Nous avons la capacité de savoir, nous n'avons pas, pardon, la capacité de savoir qui devra faire partie de l'Église, avec un grand E. Ce n'est pas notre part. Notre part, c'est d'évangéliser, d'accueillir, de témoigner en actes et en paroles. Ne maudissons pas ceux qui ne partagent pas notre foi. Ne soyons pas enflés d'orgueil, comme le peuple juif l'était quand il a reçu l'Alliance. Enfin, ayons de l'amour et de la compassion pour tous nos frères et sœurs en Christ, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, leur statut social, leur niveau d'éducation, etc., etc., etc. Enfin, j'aimerais juste revenir sur la petite anecdote que je vous ai racontée en début de message. Dans la situation dans laquelle j'étais, malgré mes origines, je me sentais finalement moins malgache que le papy français qui m'accueillait. Et à l'inverse, lors de nos discussions autour d'un digestif le soir, je me rendais compte qu'il était parfois plutôt déconnecté de la vie réelle en France, c'est normal, puisqu'il n'y vit plus. Je me sentais donc parfois un peu plus français que lui. Il n'a pas la nationalité malgache, et pourtant il me disait qu'il ne s'était jamais senti aussi bien que dans ce pays. Et il disait qu'il aimait profondément sa vie là-bas et les gens qui y vivent. Il avait comme ancré son identité dans son pays de résidence. À l'inverse, je n'ai pas la nationalité française, mais je suis reconnaissant envers mon pays d'adoption, qui est la France, et je suis content d'y vivre. Alors merci la sécurité sociale et la société de consommation. C'est une blague. Même sans être français, j'ai adopté la culture française et ses signes identitaires, parmi lesquels la liberté de penser, la liberté d'expression, qui n'est pas du tout acquise à Madagascar, par exemple, le bon vin, le camembert au lait cru, la baguette bien cuite, la joie de vivre, l'excellence à la française, et j'en passe. En quelque sorte, je m'approprie des symboles identitaires français en tant qu'adopté, dans ce pays, comme si, quelque part, j'effaçais mon ancienne identité, entre guillemets, même si ce n'est pas, vrai. Tout ça pour illustrer, en fait, de manière très superficielle, cette nouvelle identité que nous avons lorsque nous sommes en Christ. Identité qui efface complètement, cette fois-ci, l'ancienne. Alors, je vais terminer par la prière, et juste après, pour terminer, sur une petite note musicale, et dans la lignée de cette identité française, j'aimerais vous montrer une vidéo qui m'a particulièrement plu. Alors pourquoi ? Parce que je suis un amateur de musique classique, et je trouve que l'arrangement était particulièrement réussi. Alors c'est une vidéo qui a été diffusée à Tokyo, il y a un peu plus de 3 ans, en 2021. Alors, avant de la diffuser, je suis conscient que peut-être l'Église n'est pas tout à fait l'endroit pour diffuser ça, mais je prends le risque, ne serait-ce que pour la beauté de la musique. Alors, j'ai connu des chrétiens qui n'aimaient pas du tout ce chant, et je les comprends. Alors, veuillez m'excuser par avance si cet écart vous heurte, mais prenez cela comme une illustration du chauvinisme d'un non-français qui est reconnaissant pour ce qu'il vit. Je vais prier et on va lancer la vidéo après. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons de faire partie de ton Église. Merci parce que ce n'était pas acquis d'avance et nous sommes conscients du prix que ça a coûté, à savoir la mort de Christ, son sang qui a coulé. Et voilà, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour cela. Et aide-nous aussi à partager cette paix, partager cet amour que tu nous as témoigné. Éloigne-nous de tout orgueil, de tout sentiment de supériorité, vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas cette foi. Et aide-nous aussi à aimer ceux qui t'appartiennent, même s'ils ne nous ressemblent pas. Merci Seigneur, parce que tu es l'exemple parfait de cet amour qui s'est donné, de cet amour qui ne fait aucune distinction, qui ne fait aucune ségrégation, de quelque sorte que ce soit. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, et aide-nous à marcher dans tes voies, dans cette voie de l'amour, l'amour inconditionnel, qui était ta voie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.